VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 14 mai 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Pour commencer, les titres.
Ebola en République démocratique du Congo, des vaccins attendus mercredi au jeudi dans le pays, selon le directeur général de l'OMS.
En Égypte, 278 membres présumés des frères musulmans renvoyés devant une cour militaire. Ils sont accusés de terrorisme.
En Indonésie, nouvel attentat aujourd'hui contre une base de la police dans la ville de Surabaya.
L'auteur de l'attaque au couteau de samedi soir contre des passants à Paris est un Français de 20 ans né en Tchétchénie.
Inauguration aujourd'hui de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
Un cas supplémentaire de fièvre d'Ebola a été enregistré en RDC où les vaccins vont arriver mercredi ou jeudi, a annoncé dimanche le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Il y a un cas suspect à Bikoro, près de la République du Congo, a indiqué le directeur de l'OMS qui s'est rendu sur place lors d'une visite de 2 jours en RDC, ce qui porte le bilan à 35 cas, dont 2 confirmés. Il a par ailleurs précisé qu'il y avait des cas suspects à Mbandaka, la capitale provinciale de l'Équateur. Les vaccins vont arriver mercredi ou jeudi. Nous en avons assez, a-t-il ajouté, sans préciser le nombre de doses qui seront distribuées. Au terme d'une rencontre avec le président Joseph Kabila, il a salué le très fort leadership du gouvernement dans la réponse à Ebola et la bonne coordination avec ses partenaires, notamment MSF et l'UNICEF. Vendredi, l'OMS avait dit se préparer au pire des scénarios.
Toujours en République démocratique du Congo, dénouement heureux hier de la prise en otage de 2 touristes britanniques et de leur chauffeur congolais dans le parc des Virunga. C'est ce qu'ont annoncé le ministère britannique des Affaires étrangères et les responsables du parc. Le véhicule des 3 victimes avait été attaqué vendredi par des hommes armés non identifiés qui ont tué lors de l'enlèvement Rachel Makissa Baraka, une garde congolaise du parc.
L'Algérie a dénoncé hier ce qu'elle a appelé les propos irresponsables de Rabat. C'était en réaction aux propos du ministre marocain des Affaires étrangères qui, dans une interview à Jeune Afrique, a de nouveau accusé l'Iran d'avoir aidé militairement, avec l'appui d'Alger, le Front Polisario, mouvement indépendantiste du Sahara occidental, territoire revendiqué par le Maroc. Rabat avait annoncé le 1er mai la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran, l'accusant d'avoir livré, via son allié le Hezbollah libanais, des armes au Front Polisario, soutenu par l'Algérie, ce que tous les mis en cause ont démenti.
En Égypte, le procureur général a renvoyé hier 278 membres présumés des frères musulmans devant une cour militaire où ils seront jugés pour des accusations de terrorisme, Nathalie Barge.
Sur les 278 personnes, 141 sont en détention préventive. Elles sont notamment accusées d'avoir rejoint le groupe Liwa al-Tawa, responsable de l'assassinat d'un général en 2016, et le groupe ASM. Elles devront également répondre de 12 opérations terroristes ayant abouti à la mort de policiers. Les deux groupes sont apparus après la destitution en 2013 par l'armée égyptienne du président Mohamed Morsi et la répression qui a suivi contre les supporters des frères musulmans. La police a accusé à plusieurs reprises la confrérie d'avoir dirigé ces groupes, une accusation reprise dans l'arrêt de renvoi dimanche. Les frères musulmans déclarés par le régime organisation terroriste en décembre 2013 nient toute implication dans des actions violentes en affirmant se cantonner à l'action politique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Indonésie, 4 kamikazes ont été tués dans un attentat suicide contre un commissariat de police de la ville de Surabaya tôt dans la matinée, tandis qu'une fillette de 8 ans qui était avec eux a survécu, a indiqué la police. Il y avait eu la veille une série d'attentats suicides contre des églises dans cette même ville. Selon le porte-parole de la police de la province de Java orientale, l'attaque a fait au moins 10 blessés. Plus tôt dans la journée, il avait fait état de 2 kamikazes à moto.
Et puis, l'auteur de l'attaque au couteau samedi soir à Paris, revendiqué par le groupe État islamique, est un Français de 20 ans né en Tchétchénie. Un passant français âgé de 29 ans a été tué et 4 personnes blessées. L'assaillant, Khamzat Azimov, qui a été abattu par un policier, avait été fiché pour radicalisation islamiste. Un de ses amis, son père et sa mère ont été interpellés hier pour interrogatoire. Selon des témoins, l'agresseur a crié « Allahu Akbar, Dieu est grand » en attaquant les passants samedi.
Les États-Unis inaugurent aujourd'hui leur ambassade à Jérusalem, une cérémonie qui coïncide avec le 70e anniversaire de la création d'Israël en 1948. De nouveau, Nathalie Barge.
Le secrétaire d'État américain et le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale ont estimé dimanche qu'un accord de paix israélo-palestinien était possible après le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Le processus de paix n'est certainement pas mort, a déclaré Mike Pompeo lors d'un entretien à la chaîne Fox. Nous y travaillons dur, a-t-il assuré. Pour le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, loin de saper le processus de paix, ce déménagement le rend plus facile, a-t-il fait valoir lors d'un entretien à la chaîne ABC. Reconnaître une réalité améliore toujours la probabilité de parvenir à la paix, a-t-il estimé. Des milliers de Palestiniens sont attendus ce lundi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël pour protester contre l'installation de l'ambassade. Pour l'envoyé palestinien aux États-Unis, Hussam Zomlot, le gouvernement américain a abandonné de lui-même le rôle de conciliateur en choisissant de déménager son ambassade.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammed Javad Zarif, qui a entamé hier à Pékin une tournée diplomatique, espère décrocher un futur cadre clair pour l'accord nucléaire après le retrait des États-Unis. Il se rend à Moscou ce lundi. Nous retrouvons Jean-Roger Bion.
Après Pékin et Moscou, Javad Zarif doit se rendre à Bruxelles, où il rencontrera ses homologues français, allemands et britanniques. Le ministre iranien a affiché dimanche un optimisme prudent quant aux possibilités de sauver l'accord de 2015 qui prévoyait une levée des sanctions en contrepartie de l'engagement de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Après la décision du président Donald Trump d'en retirer les États-Unis et de rétablir les sanctions, la raison cruciale de ce voyage est d'entamer le dialogue avec les pays qui restent dans l'accord, a-t-il souligné lors d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a affirmé dimanche sur la chaîne Fox qu'il comptait travailler dur avec les Européens pour parvenir à un nouvel accord. Pékin, qui avait regretté la décision américaine, a simplement assuré dimanche vouloir maintenir le contact avec toutes les parties. Premier partenaire commercial et économique de l'Iran, la Chine a accordé à ce pays des lignes de crédit et des financements de dizaines de milliards de dollars pour d'ambitieux chantiers d'infrastructures.
En Irak, des centaines de partisans du chef religieux populiste Muqtada al-Sadr sont descendus dans la rue hier soir à Bagdad pour célébrer l'annonce des résultats partiels des élections législatives. Ces résultats, qui portent sur le dépouillement dans un peu plus de la moitié des provinces du pays, montrent Sadr en tête. Le leader religieux chiite, connu pour sa rhétorique anti-américaine, n'est pas lui-même candidat, mais il mène une coalition qui a gagné avec une grande marge à Bagdad, la capitale, et une alliance de candidats qui ont des liens étroits avec les puissants groupes paramilitaires chiites, arrive en deuxième position. Une victoire de Muqtada al-Sadr serait un coup sévère porté à la campagne de réélection du Premier ministre Haider al-Abadi.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré hier que si la Corée du Nord accepte une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, les États-Unis sont prêts à offrir à Pyongyang des garanties sur sa sécurité et aussi permettre à des investisseurs privés américains d'aller construire, entre autres, le réseau électrique de la Corée du Nord. Un sommet est prévu le 12 juin à Singapour entre le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Jean-Roger Bion.
Les dirigeants des principaux constructeurs automobiles aux États-Unis ont rencontré vendredi le président Donald Trump à la Maison-Blanche pour trouver un terrain d'entente sur la renégociation du traité de libre-échange nord-américain ALENA et la révision des normes de consommation de carburant. Les constructeurs, qui ont beaucoup investi dans des usines au Mexique depuis l'entrée en vigueur de l'accord en 1994, craignent une modification des règles actuelles et l'augmentation de leurs coûts. Le gouvernement égyptien a reçu de l'Autriche un prêt de 8 millions d'euros. Ce financement va permettre d'assurer les travaux de maintenance du chemin de fer pendant 36 mois et relever surtout le niveau de sécurité. Les opérations de maintenance concernent les lignes de chemin de fer reliant le Caire, Alexandrie, Banna, Zagazig et Port Saïd. L'Égypte dispose d'un délai de grâce de 66 mois pour la maintenance des chemins de fer. La Chine et l'Éthiopie ont conclu deux accords de financement de 265 millions de dollars pour la réalisation d'un projet d'adduction d'eau potable et l'assistance humanitaire. Le premier financement accordé sous forme de prêt concessionnel servira à résoudre la pénurie d'eau potable de Mekele, la capitale de la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la CAN des moins de 20 ans, ce sera l'an prochain au Niger. Pour l'instant, on joue le deuxième tour de qualification.
Oui, et le Mali s'impose 2-1 en Tanzanie. Le Bénin s'est incliné sur le même score en Gambie. Mauvaise opération pour le Cameroun qui a perdu 1-0 à Kampala face à l'Ouganda. 1-0, c'est aussi le score que la Mauritanie a infligé à la Guinée. Enfin, le Nigeria a été accroché par la Guinée-Bissau, score 2-2.
Un second tour qui a vu le tenant du titre sans piquer au Rwanda.
Exactement, la Zambie, vainqueur de cette coupe en 2017, a réussi son entrée en s'imposant 2-0 au Rwanda. Les Chipolopolo prennent donc une sérieuse option pour passer ce tour, tout comme l'Angola, vainqueur 2-1 au Malawi. De même pour le Gabon, victorieux de la Côte d'Ivoire 3-0 et du Burkina Faso 3-1 face à la Libye. Notons que beaucoup de matchs nuls ont été enregistrés, comme celui du Sénégal face à l'Égypte 0-0. Score identique entre l'Algérie et le Ghana. Le Congo et l'Afrique du Sud en déplacement ont ramené un nul 1-1 respectivement contre le Botswana et le Mozambique.
Football toujours avec la Coupe de Tunisie. Le club africain domine l'étoile du Sahel et conserve son trophée.
Oui, les rouges et blancs de Tunis ont ainsi remporté cette coupe pour la deuxième année de suite, la 13e fois de leur histoire, après leur victoire lors de la finale disputée hier à Rades face à l'Étoile sportive du Sahel, score 4-1. Du côté de l'Algérie, le CS Constantine est sacré champion. Les Sanafirs ont remporté leur deuxième titre de champion en disposant de l'USM Blida 2-1 lors de l'avant-dernière journée du championnat. Avec 5 points d'avance, il ne peut plus être rattrapé par la JS Shuaïa.
Football encore avec le Mondial 2018 en Russie et l'Islande a dévoilé la liste de ses 23 joueurs.
Adversaire du Nigeria, de l'Argentine et de la Croatie dans le groupe D, la sélection dirigée par Amy Algrimson a été la première a dévoilé sa liste de 23 joueurs retenus pour cette compétition. Un effectif presque au complet. Et même s'il n'a plus joué depuis mars pour cause de blessure, la star de la sélection Gylfi Sigurdsson, attaquant d'Everton, figure bien dans cette liste. Pour rappel, le quart de finaliste de l'Euro 2016 participe à la première Coupe du Monde de son histoire.
Cyclisme à présent, l'épilogue du Tour du Bénin avec une nouvelle fois le sacre du Burkina Faso.
Comme l'année dernière, les étalons cyclistes ont dominé sans partage le Tour du Bénin. Cette année, ils ont fait mieux en remportant toutes les étapes. À l'arrivée, c'est Salfou Yarmbanga qui remporte le maillot jaune, succédant ainsi à Abdel Aziz Nikiema. Il devance deux autres Burkinabés, Seydou Bamogo et Salfou Bikenga, qui a d'ailleurs remporté la sixième et dernière étape courue dans les rues de Cotonou. On écoute Salfou Yarmbanga, très heureux du travail abattu par ses coéquipiers.
C'est pas facile. À la première étape, nous sommes mis des paquets pour gagner les maillots par écart. À la fin, c'est pas facile pour nous. On s'est grouillé, on gagne les six étapes. On gagne le maillot jaune, le maillot de points, meilleur zine. En tout cas, félicitations pour Burkina Faso.
À l'instant, Salfou Yarmbanga, vainqueur de l'édition 2018 du Tour cycliste international du Bénin, la NBA. Pour finir avec vous, Idrissa, la finale de conférence. Et à l'Est, Boston remporte le premier match face à Cleveland.
Oui, Boston a idéalement débuté la finale de la conférence Est en surclassant Cleveland et sa superstar LeBron James 108-83 hier. Les Celtics mènent une victoire à zéro dans cette série qui se dispute au meilleur des 7 matchs et peuvent doubler leur avantage mardi lors du match numéro 2, toujours à domicile.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, les poids lourds de l'opposition, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé et l'ancien président de la commission de l'UMOA, Soumaïla Cissé, ont été respectivement investis par les partis politiques FAR et URD comme candidats à l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu pour le 29 juillet 2018. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le soleil ardent, avec sa chaleur, ont laissé place à un ciel assombri par des nuages. C'est sous ces temps cléments que certains Bamakois ont pris d'assaut le stade du 26 mars et ses 60 000 places. Ambiance de carnaval à la satisfaction des organisateurs. Thieblin Dramé, membre de l'alternance pour le changement.
Le peuple malien vient de vivre un jour important, une étape importante vers l'alternance. Cette mobilisation est une étape décisive. Je crois que les fondations du régime Ibeka tremble aujourd'hui. Il est temps donc que le président en tire les conséquences. Le peuple aspire au changement, le peuple aspire à l'alternance, donc je crois que le président va en tirer les leçons.
C'est dans une voiture décapotable que Soumaïla Cissé, tout de blanc vêtu, a fait le tour du stade du 26 mars, puis saluer ses invités d'honneur, parmi lesquels l'opposant Selou Dalein Diallo.
Sachez que c'est le début du changement. Sachez que nous avons pris un chemin qui est irréversible. Sachez qu'on ne peut plus reculer. Sachez que la victoire, elle est certaine. Personne ne peut en douter, parce que votre spontanéité suffit ici pour montrer que nous sommes sur la bonne voie. Encore du courage, soyons vigilants. Pas de tricherie, pas de fraude comme en 2013, pas de yurku-yurku comme en 2013, pas de nyagami-nyagami comme en 2013. Nous n'accepterons plus cela.
Face à la grande mobilisation du jour, les partisans et alliés candidats de l'URD étaient aux anges. Djibril Tall, président du parti PDS.
Je pense que la cérémonie passe de commentaires. Vous avez pu vivre l'ambiance. Je pense que nous sommes à l'aube d'un changement dans le cadre de la coalition pour l'alternance. Il fera un quelqu'un pour la réforme et pour la régénération de la couche, disons, de gestion du pays. Nous allons, d'une manière très utile, nous y mettre à aller. Nous estimons que dans un futur très proche, la nouvelle jeunesse montante sera à la commande du pays.
Hier, l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé, président des FAR en Kaouli, a été investi candidat à la présidentielle par le nouveau pôle politique NPP.
Pour son peuple, que la paix, l'autosuffisance alimentaire, le progrès, des dimensions qui pourront permettre aux Maliennes et aux Maliens de vivre mieux, de vivre dignes et de vivre heureux afin de permettre à leurs petits d'être les braves soldats du développement et les partisans d'un Mali nouveau.
Notre motivation tire son essence de la stratégie proposée par M. Modibo Sidibé. Elle repose sur les valeurs fondamentales qui sont la liberté, la justice, le travail et la solidarité, traduisant notre appartenance à la société des travailleurs.
Modibo Sidibé, dont le projet de société est Mali Horizon 2030, est soutenu par des milliers de jeunes leaders d'associations.
Le choix de la personnalité qui présidera prochainement au destiné du peuple malien revêt une importance spéciale, car il ne s'agira ni plus ni moins que de choisir entre le redressement du pays et son affaissement, de refondation d'un État malien crédible aux institutions républicaines fortes et adaptées aux défis en cours et dont la sécurité est assurée sur toute l'étendue du territoire national.
D'autres investisseurs auront lieu certainement, mais ça sera après le mois de Ramadan, une période pendant laquelle le marigot politique devient calme au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, le FPI, demande la mise en place d'une nouvelle commission électorale en vue de la présidentielle de 2020. Ce week-end, lors de la célébration de sa traditionnelle fête de la liberté, l'ancien parti au pouvoir a par ailleurs dressé un tableau sombre de la démocratie dans le pays. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, a assisté à ce rassemblement.
À Yopougon, fief du Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, les militants du FPI ont fait ce week-end l'état des lieux des libertés démocratiques en Côte d'Ivoire, 28 ans après le retour du pays au pluralisme politique et 7 ans après la chute de leur champion Laurent Gbagbo. Pascal Afinguessan, président du FPI.
La Côte d'Ivoire vit en réalité avec la justice des vainqueurs, de nombreux prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, la liberté d'expression qui n'est pas totalement assurée, la liberté d'aller venir contrariée par l'insécurité grandissante, les arrestations massives abusives, les libertés sont menacées en Côte d'Ivoire, elles sont piétinées et c'est pour cela que nous avons placé cette fête sous le signe de la reconquête des libertés.
Sur le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, le président du FPI ne cache pas non plus sa déception.
La réconciliation doit s'inscrire dans un processus de vérité sur les événements qui sont passés, de justice. La vérité n'est pas faite sur les événements. Beaucoup de victimes de ces tristes événements n'ont pas encore fait le deuil de ces meurtrissures. Les réparations auxquelles les victimes ont droit tardent à se faire et donc la réconciliation est au point mort.
Le FPI demande également une nouvelle commission électorale et un nouveau recensement électoral en vue de la présidentielle de 2020.
Pour nous, c'est une question essentielle. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui compte près de 26 millions d'habitants, ne peut pas se contenter d'une liste électorale de 6 millions d'électeurs. Il nous faut une liste électorale d'au moins 9 millions, 10 millions. Nous ne pouvons pas tolérer des recensements, des révisions qui sont faites à la va-vite de façon cosmétique, juste pour dire qu'on a fait un recensement, alors qu'en réalité, le corps électoral ne reflète pas la réalité politique du pays.
Les militants du FPI espèrent quant à eux le retour rapide de leur parti au pouvoir.
Hier, on était au pouvoir, aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Nous nous battons pour revenir encore au pouvoir.
Le pouvoir nous a été arraché de force en 2010. Là, il faut aller à la conquête du pouvoir pour 2020. Et avec l'unité qui profile à l'horizon, l'espoir est permis.
À 2 ans de la présidentielle prévue en 2020, la scène politique ivoirienne connaît un certain regain d'activité. Fête de la liberté par-ci, congrès par-là, les différentes formations politiques affûtent déjà leurs armes en vue de cette échéance électorale. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
En République du Congo, la cour criminelle de Brazzaville a condamné à une lourde peine le général Jean-Marie Michel Mokoko à l'issue d'un procès qui a duré en tout et pour tout 5 jours. À Brazzaville comme à Pointe-Noire, les Congolais réagissent. Reportage de notre correspondant sur place, Arsène Séverin.
La sentence de Mokoko est tombée comme un coup d'éclair à Brazzaville. 20 ans de détention criminelle et 1 franc symbolique de dommages et intérêts sont la peine du général qui a opté pour un mutisme tout le long du procès. Certains Brazzavillois estiment que les faits reprochés au général Mokoko sont irréfutables et donc la sanction juste.
Il avait reconnu en 2007, puisque l'affaire a été réglée en famille entre... C'est la justice, hein, c'est la justice. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est la révolution qui est en train de manger ses enfants.
Par contre, nombreux dénoncent un procès inique. Le cas de Joe Washington et Bina de la plateforme Field.
Cette condamnation inadmissible, cette condamnation est arbitraire. Ce sont ce genre de procès et nous ne sommes pas surpris de constater que malheureusement, le résultat qui était attendu est bel et bien sorti.
À Pointe-Noire, la ville où le général Mokoko a largement été voté en 2016, les populations ont été critiques face à la justice congolaise.
Quand on voit dans l'ensemble, ça n'a pas tellement... C'est comme un cinéma qu'ils sont en train de faire.
Il y a surtout le ras-le-bol. On a quand même l'impression que les gens disent, bon écoutez, que ça finisse, qu'on entende la sentence qui va tomber et puis voilà. Basta. Quand on a brandi les preuves, notamment sur les images vidéo, ma foi, nous sommes en plein 21e siècle, que des images comme ça soient diffusées en plein procès, où on voit des images avec des cuts, l'évolution de l'image n'est pas linéaire, quelque part, on doit se poser des questions.
Donc c'est ici que la majorité des opposants ont été bien reçus. De notre côté, vraiment, ça c'est un procès qu'on devait suivre en direct à la télé, mais... Le gouvernement nous a empêchés de le suivre en direct. C'est quelle justice que nous avons.
Selon Franck Loufoy-Bessy, secrétaire général de la Rencontre pour la paix et les droits de l'homme, une ONG basée à Pointe-Noire, le procès Mokoko a causé la détérioration du climat de paix dans la ville pétrolière.
En tout cas, nous déplorons une dramatisation de la situation, y compris par les autorités et par les services de sécurité. Et on ne s'explique pas cela. Alors qu'il s'agit d'un procès, d'un individu, il y en aura d'autres. Mais à quoi est due cette dramatisation? On ne comprend pas. On note des arrestations, etc. Mais je pense que plutôt que de promouvoir un climat de terreur, il revenait aux autorités qui sont les nôtres d'apaiser la situation.
Les avocats du général Mokoko ont 3 jours pour faire appel. Mais avec la stratégie du silence, il n'est pas évident que le Conseil suive cette voie. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Sénégal, la Biennale de Dakar, appelée aussi Dakar, est l'une des principales manifestations d'art contemporain africain à consacrer exclusivement sa sélection aux artistes africains. Intitulée, instituée par l'État du Sénégal depuis 1989, c'est la plus ancienne biennale de ce genre en Afrique. Cette biennale est aussi une première dans le développement de l'art contemporain en Afrique. Elle permet également à de jeunes artistes de vivre leurs rêves en leur offrant l'occasion de montrer leur savoir-faire. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagui.
Cette année, l'une des principales attractions de la Biennale est Papsama Ndiaye. Ce jeune artiste sénégalais en est certes à sa première participation, mais ses tableaux sont déjà devenus des œuvres phares. Papsamba espère que cette biennale va lui offrir plusieurs opportunités dans sa carrière.
La biennale, c'est une grande opportunité. Ça permet d'avoir des liens, des contacts, une ouverture sur le plan international. Ce que l'artiste attend chez lui, c'est-à-dire le sentiment d'autrui, du regardant par rapport à son contexte, sa démarche artistique. Si tellement c'est approuvé, là, on atteint notre objectif en premier lieu sur ça. Avec l'ouverture, l'interconnexion entre les artistes sénégalais et les artistes invités qui proviennent partout du monde, ça fait quelque chose d'intéressant dans notre carrière.
La biennale de Dakar, c'est également les manifestations d'environnement dites OFF qui regroupent près de 250 projets. Parmi eux, on retrouve le laboratoire Agitar qui permet à plusieurs jeunes Sénégalais et Africains d'exposer leurs talents en espérant attirer le regard des sommités du monde de l'art. Aïken Ramajeli, directeur artistique de Agitar, s'exprime au micro de VOA Afrique.
La Biennale de Dakar, comme tant d'autres biennales, c'est un événement qui a attire beaucoup de gens, des commissaires, des galeristes. Donc pour ceux qui veulent montrer les trucs, c'est une occasion aussi de regrouper beaucoup de gens, de trouver des galeries, des musées pour pouvoir exposer et tant d'autres projets aussi.
Les artistes du laboratoire Agitar ont choisi comme thème la cloche des fourmis. Une manière pour eux de montrer qu'au-delà des objectifs de carrière, l'union des cœurs est la principale force du monde artistique, comme l'explique Aïken Ramajeli.
C'est une question de confiance, c'est une question de pacte et d'honneur. Les moyens pour pouvoir faire tout cela, pour pouvoir réaliser quelque chose de fort, c'est l'union. Et les premiers investissements, c'est notre énergie et notre détermination. Nous, on a eu le soutien du Clicent Unique, la délégation de l'Union Européenne, mais en laps de temps, un mois, pour pouvoir faire ça, donc il faut être des fourmis, c'est-à-dire être en union, avoir beaucoup de détermination et beaucoup d'énergie.
Cette 13e édition de la Biennale comporte une innovation majeure avec l'ouverture du pavillon sénégalais qui offre une vitrine de choix aux artistes du pays hôte. Pour donner une dimension festive et populaire à la manifestation et favoriser son appropriation par les populations, la Biennale a aussi installé dans chaque commune de Dakar une baraque. Les résidents y sont invités à montrer ce qu'ils définissent eux-mêmes comme étant de l'art. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama à 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.